Aujourd'hui, un rendez-vous un petit peu particulier et puis surtout un petit peu long parce que je suis allé interviewer Léo Ferré à Paris au sujet de la sortie de son livre « Le testament phonographe » aux éditions Plasma. Léo Ferré m'a reçu de la façon la plus simple, la plus affable, la plus charmante du monde et je dois dire que cette simplicité et cette amabilité de Léo Ferré m'a un peu troublé. Vous allez voir, l'entretien a un ton un peu à la fois intimiste et peut-être un petit peu timide. Je crois que c'est un peu le charme de cette rencontre. Je vous laisse en compagnie de Léo Ferré. J'espère que vous serez aussi sensible que moi au charme de cet écrivain, mais aussi de ce grand chanteur. Léo Ferré, merci de nous recevoir à Sud Radio à propos de la sortie de votre livre, Le Testament phonographe. Autour de nous, eh bien, Jean-Claude Renaud et Pierre Drachlin, qui sont les artisans des éditions Plasma. J'ai tenu à ce qu'ils soient là, et vous aussi, je crois. Ce livre, pour vous, c'est un événement, j'imagine. Je crois que l'essence...
Oui, l'événement, pour moi, enfin, l'événement, ce livre, l'événement, en ce moment, c'est Kaboul et le reste. Hein. Bon. Mais la chose importante... Pour moi, c'est justement, vous avez dit, Drachlin et donc Pierre et Jean-Claude, et puis Dominique, qui sont des forains de l'édition. Et comme je dis toujours que les éditeurs, ça n'est à prendre ou à entrevoir qu'avec des pincettes et encore. Alors, c'est pas des éditeurs, c'est des gens qui ont compris beaucoup de choses, qui ont aimé d'abord le livre, qui faisaient tout à fait autre chose et qui un jour se sont réunis comme ça, ils se sont connus, ils se sont trouvés, et puis ils ont acheté une librairie et ils se sont mis à éditer des livres. En plus, des livres, et ils n'éditent pas n'importe quoi, ça n'est pas pour mon livre que je parle, mais toute la série des choses qu'ils ont éditées, ça n'est pas forcément des livres dont ils vont se dire... Bon, ça va partir comme des petits pains. Non, ils écrivent ce qu'on appelle des livres de comment s'appelle ça, de fond, hein, de fond. Des livres, des fois, qu'on met 10 ans à épuiser, même quand il y en a 2000 ou 3000. Donc, ils font des efforts. Et puis, ils ont, comment dirais-je, le même sentiment que moi, vis-à-vis d'un tas de choses.
On reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, de votre amour du livre, de votre amour de la lettre, de la typographie. Le testament phonographe, ça laisse penser que ce sont surtout des textes de chansons. Et pourtant, je crois qu'il n'y a pas que cela dans ce livre. J'y ai vu d'abord un très beau texte d'introduction, et puis j'y ai vu des photos. Pourquoi ces photos?
Je pense que les photos, ça, j'étais en accord avec eux, c'est surtout une idée à... tous les deux, de mettre des photos, parce que je pense qu'ils ont eu l'idée d'éclairer un peu, de varier un peu, parce qu'un livre comme ça, qui ressemble à un livre dit de poésie, c'est pas tellement folichon, quoi. Bon, ils ont raison. D'autre part, ça nous a permis, vraiment, en étroite collaboration, puisqu'ils sont venus avec moi, on a monté ce livre, enfin, la suite de ces textes, vraiment ensemble, quoi. Alors moi, j'ai beaucoup pu trouver la suite parce que je connais mieux mes textes que, je veux dire, en cela que j'ai essayé de faire ça, et c'était difficile, comme si j'avais eu à faire un tour de chance, c'est-à-dire que ça commence par quelque chose, par des désaffinis, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas parfait, rien n'est parfait, mais le testament phonographe, vous dites, il y a des chansons. D'abord, c'est honnête, parce que les gens sauront que les titres, la plupart des titres, en tout cas beaucoup de titres, ont été dans des disques, mais ils ne sont pas édités. Bon, ils ne sont pas imprimés. Ce qu'il fallait peut-être, ça pourrait intéresser les gens. Et d'autre part, vous savez que c'est aussi un jeu de mots. Dans le titre, il faut trouver quelque chose qui frappe. Il y a le testament holographe, qui est le testament qu'on écrit avec sa main propre, qui vaut comme un testament et passé devant notaire. Et puis, comme vous dites, si je dois laisser quelque chose, c'est un disque, c'est ma voix, donc phonographe, ça tombe bien. C'est une chance d'avoir trouvé ce titre.
Et puis ces photos sont ponctuées de figures d'enfants, qui je crois sont les vôtres, et ces enfants sont là avec une grande tendresse. Et j'ai remarqué que cette tendresse de la présence de l'enfant était quelquefois une sorte de contrepoids peut-être à la grande violence de certains de vos textes.
Je ne sais pas, ça n'a pas été fait exprès, en tout cas, mais vous savez, les enfants dans ma vie ont une grande part, je ne dis pas dans ce que je fais, bien sûr, ils me laissent une paix royale. Je dis que, quand je dis je vis seul, je suis seul, c'est-à-dire je suis seul dans ma tête, il n'y a personne qui n'entre plus jamais dans ma tête, alors que pendant un grand nombre d'années, il y a toujours des gens qui sont débrouillés pour rentrer dans ma tête. Et on n'a pas à rentrer dans la tête d'un artiste parce qu'il a de la peine à s'y tenir lui-même. Hein. Alors si vous mettez des chaises dans la tête avec des carafes, hein, et des machins, des fromages, ça va plus. Hein. Bon, ouais. Alors c'est pour ça que je suis seul. Les enfants, eh bien, pour moi, c'est le sourire. Quoi. Si j'attends quelque chose de ma vie de tous les jours, c'est le sourire de mes gosses. Et puis ils m'aiment bien parce que... parce que je leur rends bien aussi.
Cette solitude dont vous parliez à l'instant, je crois que vous l'expliquez, et d'une façon, personnellement, que j'ai trouvé tout à fait bouleversante, dans le texte d'introduction qui s'appelle « Technique de l'exil ». Vous expliquez, vous montrez que le peintre n'est pas tout à fait seul, que le sculpteur ne l'est pas non plus, mais que par contre, le poète l'est. Et vous avez à un moment cette phrase terrible. Vous dites le mot, voilà l'ennemi.
Oui.
Pourquoi ?
Eh, parce que le mot, il est pollué. Hein ? Et j'ai longtemps dit, enfin, je disais dans un texte qui s'appelle Le Chien, il faut réinventer les mots, il faut les polir, enfin les nettoyer. Quoi. C'est ce qu'on essaie de faire, mais il faut tuer les mots anciens. Hein ? Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Je dis, c'est une façon de parler, bien sûr. Mettez-vous bien dans la courbure. Hein. Et c'est pour ça que je dis que... Il est difficile, vous savez, d'écrire et de s'imaginer... Moi, je n'ai pas beaucoup de difficultés à écrire, je veux dire, mais de penser que les gens vont vous bien vous comprendre, parce que les mots, pour eux, sont usés beaucoup plus qu'ils ne sont pour moi, par exemple. Moi, pour moi, le mot, c'est une chose, bon, encore... valide. Et c'est un ennemi dans le sens où il peut ne pas arriver au bon moment non plus, vous voyez. Et le fait de faire partager à quelqu'un sa pensée qui s'exprime avec des mots, eh bien, il faut savoir bien choisir les mots. Alors moi, en plus, moi je ne les choisis pas. Je dis toujours que le mot vient un centième de seconde, de façon de parler, avant la pensée. C'est la raison pour laquelle je suis dicté, vous voyez.
Et alors, cette usure et cette pollution des mots, c'est ça qui justifie un petit peu cette attitude. Il m'a semblé à plusieurs reprises que Saint John Perse était un petit peu votre tête de Turc. C'est à cause de cette usure des mots dont il use. Est-ce que c'est parce qu'il a eu le Nobel?
Non, je pense que, vous savez, d'abord, il s'est fait appeler Saint John. Bon, il s'appelait Léger, ce mec. Bon. Et puis, j'y fais partie de la décadence de notre époque. Moi, je dis que Byzance a été une décadence, mais ils ont laissé des choses. Cette époque, cette décadence de notre époque, ça ne laissera rien du tout, je pense. Vous savez, on voit ça dans la peinture, dans la sculpture, une certaine sculpture, notamment américaine. Et puis, la musique, n'en parle pas, mettons que Berson, plus vieux, serait. Il est mort d'ailleurs. C'est la boulesse de la parole, oui.
Mais enfin, est-ce que vous voulez bien qu'avec Pierre Bracheline et Jean-Claude Renaud, on parle un petit peu maintenant de votre amour du livre? Ils m'ont dit que vous aviez chez vous une petite imprimerie, presque. Vous parlez dans vos textes, et de façon très émouvante, de termes de typographie, de noms, de caractères. Enfin, c'est essentiel pour vous, et pourquoi?
Vous savez, rien n'est essentiel. Je pense que quand vous aimez quelque chose, vous le dites. Hein. Bon, je dis rien n'est essentiel dans cette vie. Mais il y a des choses qu'on aime. Moi, j'ai toujours aimé la reproduction depuis que non pas depuis que j'ai 4 ans, comme pour la musique, mais tout jeune, j'aimais bien les livres bien imprimés, les beaux papiers. Bon, c'est banal ce que je dis, mais... Et un jour, en 56, ça remonte assez loin, hein, j'ai acheté une petite offset de bureau où je margeais. On dit marger, c'est faire passer le papier, hein, à la main. Avec le blanchet, c'était de l'offset, c'était une chose abominable parce que... Et un soir, j'avais été chanter, je chantais à Montmartre à ce moment-là, et un soir, je chantais une chanson, je me levais les mains comme ça, et je me suis rendu compte que j'avais tous les ongles noirs, parce que je venais d'imprimer, que je ne m'étais pas lavé comme il fallait. Et alors là, je me suis dit, bah, écoute, t'es un imprimeur quand même, parce que tu essaies de salir les mains, quoi. Et en plus, eux m'ont aidé, évidemment, quoi. Ils ont compris ce que j'aimais, et ils aiment les mêmes choses que moi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils font ce métier-là, c'est parce qu'ils ont dû avoir les mêmes plaisirs, les mêmes envies que moi, donc, quand ils ont découvert les livres, la littérature.
Alors inversement, je vais poser la question à Pierre et à Jean-Claude maintenant. C'était pas effrayant au départ de faire un livre avec Léo Ferré, en sachant qu'en plus, c'est un grand amoureux de la typo, c'est un praticien du livre, comme vous l'êtes vous-même, et Pierre?
Oui, je crois que c'était surtout effrayant parce qu'il y a une fausse image de Léo Ferré qui circule. Et que moi, personnellement, j'estime toujours que j'ai une dette envers lui, car n'ayant pas fait d'études, si je suis arrivé à la poésie, c'est par Ferré. C'est Ferré mettant musique Baudelaire, Rimbaud. Ce sont les textes de Ferré eux-mêmes. Et que si je n'avais pas approché de la poésie, par Ferré, je n'aurais pas pu éditer quelqu'un comme Brice Blanchard ou Benjamin Fondane. Alors ce que nous avons fait, j'ai tout simplement écrit à Léo Ferré pour lui dire ce qu'il m'avait apporté et lui envoyer quelques livres pour lui montrer ce que nous faisions. Et je dois dire qu'il y a eu une rencontre de sensibilité, de la même manière que nous n'éditons que ce qui interpelle notre sensibilité.
Léo Ferré, tout à l'heure, vous disiez que peut-être il était utile d'avoir mis noir sur blanc le texte de vos chansons. Personnellement, je suis convaincu de l'utilité de ce livre, et de l'utilité de la partie du livre qui reproduit vos textes de chansons. Je pense notamment à La mémoire et la mer, dont le texte à lui seul est personnellement pour moi une merveille. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce processus d'écriture, tant de l'écriture elle-même et de la musique, et comment les deux s'harmonisent et comment les deux arrivent à constituer la chanson.
Alors, je prends La mémoire à la mer. J'écris un jour ça, j'ai commencé La mémoire à la mer, puis j'ai écrit. Il y a un extrait, j'ai mis extrait, mais c'était tout ce que j'avais fait, mais ça faisait plus prétentieux de mettre extrait, c'est très bien, comme ça, un type qui ne veut pas tout donner, en définitive, il donne ce qu'il a, mais il dit extrait, quoi. La mémoire et la mer dans le livre de Poète d'aujourd'hui. Oui. Numéro 93, on m'a enlevé de là. Il n'y a plus que 92-94. Oui, parce qu'on m'a mis dans la série chansons. Oui. Et alors, après, j'ai écrit La mémoire à l'air comme ça, ça s'allongeait petit à petit. Et puis en 68, j'ai fait ma révolution, enfin mon ménage dans ma vie. J'ai écrit cette musique pour faire la chanson, que j'appelais La mémoire à la mer d'ailleurs. Et j'ai pris ce qu'il fallait. Pour expliquer un peu, il n'y a que moi qui le comprends, pour expliquer un peu mon affaire à moi, pour me faire, sinon du plaisir, du moins avoir le sentiment que je faisais quelque chose qui m'aidait, moi, quand je chantais. Bon. Et puis après, ça a été long, j'ai beaucoup écrit, de temps en temps, quoi. Et puis après, il a été question de faire un livre avec ma poésie, La mémoire à la mer, je l'ai donné à l'éditeur, je l'ai prêté plutôt à l'éditeur, j'avais gardé mes droits. Il y avait un photographe qui a fait des photos, qui était belle photo. Et puis ces gens-là ont édité le livre, ils l'ont tiré à, je sais pas, à 10 000 exemplaires, et puis ils ont pris des souscripteurs, ça coûtait 17 000 anciens francs. La souscription, il y a actuellement, plus de 500 souscripteurs qui ont ce livre, qui n'ont pas ce livre, qui ont payé, vous comprenez. Alors, je vous dis ça parce que je ne l'ai jamais dit publiquement, et il y a des gens qui pourraient imaginer que moi, je suis dans le coup de ce qu'on pourrait considérer être, en somme, comme une escroquerie. Voilà. Et alors, j'ai coupé j'ai pris des textes, et dans le livre qui paraît maintenant, qui s'appelle Testament Phonographe, il y a La mémoire à la mer, qui est la chanson que vous connaissez, il y a une chanson qui s'appelle Christie, qui est La mémoire à la mer aussi, il y a une chanson qui s'appelle le FLB, qui est La mémoire à la mer aussi, et puis là, dans le disque, l'année dernière, qui s'appelle Il est 6h06 à New York, que j'ai fait, qui est distribué chez Barclay, il y a des mots qui faisaient partie de La mémoire à la mer. Voilà, vous savez, ce sont des choses qui ne concernent, qui ne regardent que moi, mais en fait, puisqu'on me pose la question, je vous réponds comme ça.
Bien, bah écoutez, Léo Ferré, merci, grand merci. Merci à Jean-Claude Renaud, merci à Pierre Drachelin d'être là. Et puis, je vous dis surtout merci pour ce livre.
Merci à vous. Merci, je voudrais remercier encore vraiment de tout cœur Pierre Drachelin, Jean-Claude et puis Dominique. Et puis, peut-être que Jean-Claude il pourrait nous dire un petit quelque chose là, avec sa voix grave.
Jean-Claude, ce livre, je disais tout à l'heure, c'est un événement pour Léo Ferré. Je crois qu'un livre, c'est toujours un événement. Pour vous, c'est un événement aussi chez Plasma.
Oui, c'est un des c'est le livre qui nous a coûté le plus de fatigue, le plus d'angoisse, mais je crois que c'est le plus beau livre que nous avons fait.
Merci donc de nous avoir écoutés. Je vous rappelle le titre du livre de Léo Ferré, Le Testament Phonographe, aux éditions Plasma. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.